C'est-à-dire ce soutien de la population vaudoise et pas uniquement du périmètre à préserver ce site que tout un chacun considère comme exceptionnel.
Bon, soutien qu'on peut, grâce à notre système démocratique, hein, qu'on peut estampiller par des résultats de votation. C'est, sûr, ben c'est sûrement pas le cas pour tous les dossiers UNESCO.
Non. Et puis il faut aussi rappeler que la Vaud est un des seuls sites, voire le seul qui figure dans la constitution vaudoise, nommément. C'est aussi une marque quand même très importante de l'attachement et de la volonté de protéger ce site.
Bon, pour autant, on verra dans la deuxième partie que les défis restent. Hein. C'est pas parce qu'il y a le souhait de protéger que les dangers ne sont pas là à guetter. Les autres sites de l'UNESCO, vous avez cité à Bordeaux, il y a en Portugal, je crois aussi, un site qui est et il y a probablement d'autres.
Oui.
Cette culture du vin, pourquoi, à ma connaissance, il n'y a pas de grande brasserie de bière qui est au patrimoine de l'UNESCO. Peut-être je me trompe, c'est possible.
Alors il y a 1200 sites qui sont inscrits, donc difficile pour moi de
mais
pouvoir.
Mais il y a la culture du vin quand même qui est particulière.
Parce que au-delà de la pratique agricole de faire pousser du raisin, le vin a deux composantes très particulières. La première, elle est économique. Le vin a été rapidement un produit de grande qualité et qui a amené une retombée économique majeure. Cette retombée économique majeure à Lavaux et dans la région, elle est également reconnue dans la valeur universelle exceptionnelle. C'est pour ça qu'on a à Lavaux des châteaux, des tours, des éléments architecturaux qui étaient là également pour protéger ce patrimoine et cette valeur économique.
Il fallait protéger le vignoble.
Et oui, et c'est le cas dans plein d'autres vignobles en Europe principalement qui sont notamment inscrits également sur la liste. Et donc, il y a cette valeur économique du vin. Et le deuxième élément, c'est que les vignobles inscrits ont tous néanmoins une architecture, une structure, une organisation du paysage très particulière qui en font des sites tout à fait exceptionnels.
Les autres sites inscrits au patrimoine, ceux qu'on a cités du vin, vous les connaissez évidemment, vous les visitez, ils viennent chez vous, les défis sont un peu les mêmes, le combat entre la modernité, la nécessité économique, le patrimoine, etc. C'est un peu partout pareil.
Alors, chaque site a réellement des spécificités, mais en tout cas, beaucoup de vignobles en terrasse, beaucoup de vignobles tout court inscrits sur la liste du patrimoine mondial sont des sites, des paysages culturels, c'est-à-dire vraiment cette appropriation de l'homme d'un espace naturel présent. Et cette préservation de l'aspect culturel est un enjeu pour tous les sites. Le deuxième élément qui est assez commun, c'est que beaucoup de ces sites sont... la pratique de la viticulture est compliquée. Elle est chère, elle est pénible, elle est souvent aussi peu mécanisée, surtout pour les vignobles en terrasse, qui est le cas pour beaucoup de vignobles inscrits sur la liste. Et dès lors, il est parfois difficile pour ces sites et ces vignobles de valoriser... dans la vente du vin, le produit en tant que tel. Et là, pour l'occasion, on a des rapprochements, on a des réflexions qui sont menées avec des vignobles d'exception tels que les climats de Bourgogne qui ont aussi des enjeux sur la valorisation des vins issus de ces territoires et de ces terroirs très particuliers.
Qui ont des pentes parfois moins pendues, pour ce que j'en connais
mais
en tout cas, mais aussi des toutes petites parcelles avec des murs autour, etc.
Et puis la structure de la viticulture, c'est-à-dire que même si on s'appuie sur des surfaces qui sont parfois plus grandes comme les climats de Bourgogne, on a aussi toute une pyramide d'acteurs qui produisent du raisin, qui transforment cela en vin, et tous n'ont pas forcément la notoriété des clos et châteaux ou des choses comme ça, qui ont des notoriétés internationales majeures, mais derrière, il y a encore des milliers de personnes qui travaillent dans cette filière-là, qui doivent également vivre de leur
tourisme,
activité économique.
Ça crée tout un tissu économique autour, qui va de l'hôtellerie à toutes sortes de choses.
Mais même au niveau de la viticulture, les petits vignerons, même si leurs surfaces en France sont bien plus grandes que celles à Lavaux, leurs enjeux de concurrence à l'interne des périmètres et de positionnement de leur propre vin face à une concurrence accrue et face à la diminution de la consommation malgré tout rend les vignobles inscrits sur la liste du patrimoine très proches les uns des autres en termes d'enjeux positionnels. J'ai toujours le plaisir de dire, on s'attache souvent au contenu et au contenant de la bouteille. Là où les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial ont un enjeu majeur, c'est de travailler sur le contexte. Rappeler le contexte. À Lavaux, on ne fait pas du vin comme dans des vignobles plats, mécanisés ou ailleurs. On est sur un vignoble en terrasse, la pente, la pénibilité, l'absence de mécanisation rend la production très compliquée et onéreuse.
Bon, c'est cette complexité qu'on va aborder dans la deuxième partie de cette émission. À tout de suite.
Bonne nuit sur Radio Chablais. large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Voilà Vincent Bailly, on se retrouve pour parler de ce fabuleux joyau, hein, ce site de Lavaux. On va pas faire l'insulte de dire qu'il faut pas dire le Lavaux, hein. Ça c'est clair pour tout le monde dans la région.
Non, c'est évidemment clair pour tout le monde. Ouais. On dit à Lavaux ou en Lavaux, mais jamais dans le Lavaux.
Voilà, ça veut dire la vallée, hein, Lavaux.
Exactement.
Voilà. Bon, alors on parlait des complexités, des difficultés. Ça, ce sont une partie de vos défis et celui des vignerons, des gens qui travaillent sur ce site. Tout récemment, le Grand Conseil vaudois a dû discuter une énième fois des défis de cette profession. Il en est sorti que certains murs pourraient être détruits. Quelle est la position de l'association Lavaux Patrimoine sur cette décision démocratique ?
Alors, les murs, c'est un enjeu majeur, comme je l'ai mentionné précédemment.
Je précise juste murs détruits pour pouvoir permettre une certaine mécanisation sur certaines parcelles.
C'est exactement ça. L'enjeu, on ne peut pas faire du binaire à Lavaux. C'est pas ou bien ou pas bien. L'association a été entendue par la commission parlementaire pour donner son avis sur ce point-là, et le voici. À l'heure actuelle, il est nécessaire que les vignerons et vigneronnes à Lavaux puissent travailler dans des conditions optimum qui leur garantissent justement un accès à leur parcelle particulière. Donc l'association n'est pas opposée à la destruction des murs, absolument pas. Parce que certains murs, effectivement, sont certes témoins de pratiques ancestrales ou autres, mais tous n'ont pas une valeur patrimoniale. Ce qui nous importe, nous, le plus important, c'est de nous assurer que les personnes qui vont définir ou décider quel mur peut être détruit le fassent sur une lecture patrimonial, économique, enfin une lecture plurielle de ce que représente ce mur-là. Et ça, c'est le plus important. Donc, on travaille main dans la main avec les vignerons pour s'attacher à maintenir cette vitiviniculture à Lavaux, la rendre, ou la maintenir durable mais rentable, c'est très important. S'il n'y a plus de vignerons à Lavaux, il n'y a plus d'inscription aussi du site sur patrimoine mondial.
C'est fait fascinant de voir que par beau temps comme par mauvais temps, quand il y a des décisions qui nous plaisent ou qui nous plaisent moins, la cohérence du discours entre la vie économique qui doit être réaliste et le patrimoine, c'est votre souci constant, c'est votre quotidien.
Oui, sachant qu'il faut se rappeler, c'est un paysage culturel vivant. Si on nommait le vivant, le vigneron ou la vigneronne à Lavaux, on perd le maintien du patrimoine minéral ou structurel que représentent les murs et les terrasses.
C'est pas une carte postale, c'est des gens qui travaillent sur une carte postale.
Les murs à Lavaux, sur 450 km, il y en a qui tombent chaque année. Cette année, un peu plus que d'habitude. Si les vignerons n'ont pas la capacité financière de remonter ces murs, c'est une atteinte directe au patrimoine de manière générale. Donc, il faut s'assurer que les vignerons soient soutenus, accompagnés et puis que puissent continuer à préserver ce patrimoine. C'est ça qui est important. Maintenir un mur pour maintenir un mur ne sert à rien si le maintien de ce mur fait disparaître un vigneron pour des enjeux économiques.
Ça, c'est quelque chose que le grand public n'a pas forcément en tête. On voit, encore une fois, la carte postale. Ces murs, ils sont là. Mais comme vous dites, le gel, les intempéries, la pluie, le soleil, ça tombe. Et c'est les vignerons, c'est les propriétaires des parcelles qui payent pour refaire ça. Alors aujourd'hui, on a des hélicoptères peut-être pour aider, pour amener les cailloux, je ne sais pas, ça coûte cher en tout cas de maintenir ce réseau incroyable de murs.
C'est ça, c'est toujours la lecture qui doit être faite du site. Au-delà de l'esthétique dont on parlait avant, le vignoble, c'est un élément construit. Et cet élément construit, pour qu'il le reste, il doit être entretenu en permanence. Et ceux qui s'attachent à le faire, ce sont les vignerons. Évidemment, ils sont soutenus, les communes sont présentes, le canton est présent, la confédération l'est aussi, mais néanmoins, la personne qui travaille ce mur et l'entretien, c'est la personne qui est dans le terrain, c'est le vigneron. Et donc, c'est un des enjeux majeurs qu'on a au niveau de l'association, c'est de mettre en place des procédures et des sources de financement pour garantir le maintien de ces éléments structurels pour le patrimoine, mais aussi pour surtout pour maintenir l'activité économique dans le site.
Et agricole, il y a quelque chose aussi qu'il faut souligner. Hein. Ça vient en deuxième plan de ce que vous dites, c'est que ces coûts supplémentaires là liés au fait qu'on peut pas mécaniser ou qu'on peut pas mécaniser à grande échelle, ce qui est le cas de plein d'autres vignobles en Suisse, hein. Les murs, etc. Bah, tout ça, ça peut pas se répercuter que dans le prix de la bouteille, parce qu'on a déjà un problème global en Suisse qui est qu'on produit trop cher par rapport aux vins étrangers. Là, les vins de la vôtre est inabordable.
Je suis pas 100% d'accord avec le fait qu'on vend des vins trop chers en Suisse. Je suis par contre certain qu'on a une marge de progression phénoménale sur la manière dont on raconte les vins aux consommateurs suisses.
Je dis pas qu'il faut les vendre moins chers. Je dis juste qu'il y en a des beaucoup moins chers qui arrivent sur nos marchés.
C'est
il y a
vrai.
Pas de protectionnisme ou pas assez.
C'est vrai. Mais on sait aussi que le Suisse a un attachement au terroir, un attachement à son agriculture et est sensible aux bons arguments. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit continuer à travailler spécifiquement avec les organismes de promotion, l'Office des vins vaudois ou Swiss Wine Promotion à l'échelle nationale. C'est rappeler qu'à l'heure actuelle, le maintien de ces paysages est essentiel. Et c'est quelque chose qu'on travaille également dans le cadre d'un partenariat que l'association a de longue date avec l'Université de Lausanne. On est en train de travailler justement sur cette réflexion de qu'est-ce qu'apporte les paysages et qu'est-ce qu'apporte l'AVO pour les populations. Et ça, c'est, et je vous donne un petit exemple simple. En période Covid, tout le monde était confiné. À partir du moment où le confinement a été allégé et que les personnes ont pu ressortir, on a eu un flux phénoménal de personnes qui sont venues à l'AVO pour s'évader, reprendre de l'air, souffle, quitter ce milieu un peu anxiogène et claustrophobe que représentaient les agglomérations.
Ouais. Avec les problèmes que ça comporte, c'est aussi la cohabitation entre un milieu urbain qui voit l'AVO comme une zone de loisirs, de promenade, alors que c'est une zone d'activité économique.
C'est exactement ça.
On ne peut pas faire un pique-nique au milieu des vignes, ça
non,
va pas.
Ne serait-ce que par le respect de la propriété privée. Donc il y a des comportements à adopter dans le vignoble en terrasse de l'Avaux, qui est un site protégé, qui est un site qui donne l'impression d'être très ouvert, mais qui ne l'est pas tant que ça, parce que l'activité viticole se fait dans des parcelles privées fermées. Les routes carrossables sont libres de circulation. Par contre, tous les chemins de vigne, qu'on appelle chemins vicinaux, sont interdits à la circulation en vélo. Mais par contre, les piétons peuvent y passer. Donc, c'est aussi une lecture du site. C'est pas un espace de loisirs. Ouais. C'est un espace économique centré sur une vitiviniculture séculaire.
Il y a un autre danger qui m'intéresse aussi. Quand on voit ce site, quand on voit ces villages, quand on voit ces merveilleuses maisons, on se dit que le mot à la mode aujourd'hui, la gentrification, l'arrivée d'urbains, de gens qui veulent quitter les villes, qui ont des moyens, qui ont de l'argent, qui ont des exigences aussi dans leur lieu de vie, ils doivent être très nombreux ici. Hein, et c'est un défi aussi de faire cohabiter ces populations-là, ceux qui travaillent la vigne, ceux qui sont là, et puis ceux qui arrivent.
Alors bon, les enjeux de cohabitation entre les personnes qui viennent de zones urbaines et
ceux-là de la ville, comme on les appelle.
Alors, oui, la cohabitation est un enjeu, mais les personnes qui viennent à l'Avaux viennent aussi pour des raisons qui sont nobles, c'est-à-dire de se rapprocher de la nature. Ce qui est très important, c'est pour nous de donner cette grille de lecture à toutes ces personnes en leur disant, à l'heure actuelle, le meilleur moyen de garantir la préservation du site, ça reste d'aller voir le vigneron, de lui acheter ses vins, de garantir une dynamisation de cette vitiviniculture séculaire. Et dans ce sens-là, oui, un phénomène de gentrification existe, mais on ne peut pas dire que ces personnes-là viennent avec des mauvaises intentions ou une méconnaissance totale du site.
Ils ne veulent pas tous construire une piscine olympique dans les villages classés, j'imagine, mais plus prosaïquement, sans donner de mauvaises intentions à qui que ce soit, mais les fils et filles de vignerons, ils trouvent à se loger.
Alors, les fils et filles de vignerons, c'est un enjeu, évidemment. L'enjeu est la reprise des domaines aussi, parce que compte tenu des enjeux que traverse la vitiviniculture à l'heure actuelle, il faut s'assurer que les domaines soient repris. Ça, c'est un premier enjeu. On voit une nouvelle génération extrêmement motivée qui arrive, qui se met en place, qui se mobilise, et c'est extrêmement réjouissant. Mais on voit aussi, certaines fois, des grandes lignées de vignerons ou vigneronnes qui peinent à remettre leur domaine aussi. Ça, c'est un enjeu très important, mais au même titre que ce que je disais avant, qui est assez proche de celui de l'agriculture de manière générale. Maintenant, c'est vrai qu'à l'Avaux, quand on a des domaines de 3-4 hectares qui ne retrouvent pas de repreneurs, ça reste très inquiétant, parce que c'est une perte directe de patrimoine, parce que c'est une parcelle qui sera moins travaillée ou temporairement laissée en l'état. Donc, on a des inquiétudes de ce côté-là. C'est toute le challenge de travailler dans ce périmètre, c'est que c'est un paysage vivant et ce vivant apporte énormément de par la mixité des personnes qui travaillent, qui évoluent et qui se déplacent, les attentes aussi, mais ça reste évidemment aussi des contraintes de faire effectivement cohabiter toutes ces populations en bonne intelligence et toujours dans l'intérêt du site et de ses patrimoines.
Bon, vous parlez de tous les aspects hein, de ce site, de cette région. On va peut-être finir par là où on aurait peut-être pu commencer. C'est quoi le job de l'association, dans le fond? Qu'est-ce que vous faites au milieu de toute cette réalité vivante?
Alors, la première mission de l'association, vu qu'on est une toute petite association, on est 5 personnes, c'est déjà de mettre les bonnes personnes autour de la table pour pouvoir traiter des sujets complexes qui sont liés à l'AVO. Et ces sujets-là, on les sépare en 3 axes. Le premier, c'est la gestion du site qui est liée aux éléments structurants. Donc, on s'attache à faire des réflexions sur comment entretenir le patrimoine physique, les murs, les bâtiments, tout ce qui constitue l'élément structurel du site. La deuxième mission essentielle, c'est ce qu'on appelle la médiation culturelle, c'est-à-dire justement de créer du lien entre les différentes populations qui évoluent dans le site. Et le troisième axe, c'est la valorisation durable, c'est-à-dire de s'assurer que tous ces acteurs-là génèrent des retombées économiques de manière durable dans le site pour maintenir un tissu local actif et dynamique.
Pour l'UNESCO, on repasse l'examen tous les X temps. Il faut donner des preuves que ça fonctionne toujours.
Oui. Un des éléments de suivi principal de l'UNESCO, c'est les rapports périodiques. Et on a rendu le nôtre en juillet l'année passée. C'est un questionnaire d'une centaine de pages qui est le même pour tous les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial dans le monde. Donc les 1200 sites ont dû faire cet exercice-là. Et de ce côté-là, donc on a fait un gros travail avec communes, cantons, vignerons, tourisme, tous les secteurs concernés pour évaluer les facteurs d'impact que peuvent être effectivement le tourisme, la mobilité, l'environnement, toutes ces grandes thématiques. On doit répondre à l'état de préservation du site et les outils de gestion pour garantir que ce site puisse être préservé sur le long terme.
Bon, bah merci à vous. Non, encore un truc, si on regarde la carte du monde, l'AVO, la région Vevey-Lausanne, c'est une tête d'épingle toute petite. Il y a deux UNESCO dans le coin. Il y a la fête des vignerons, patrimoine immatériel, l'AVO, patrimoine mondial. C'est pas banal, ça.
C'est extraordinaire. Et en plus, je crois qu'on est les seuls à pouvoir bénéficier de cette double reconnaissance. On travaille très bien avec la confrérie des vignerons qui porte justement l'inscription de la fête sur la liste du patrimoine culturel immatériel, et c'est tout à fait extraordinaire parce que ça rajoute encore le côté culturel et vivant, vu que la confrérie valorise le travail des vignerons tâcherons, de l'AVO et du Chablais également, et donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel et dont on est très fier et qu'on doit encore continuer à valoriser et à faire connaître.
Voilà, une cohérence liée au patrimoine. Ouais. Merci à vous, Vincent.
Merci beaucoup.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
La Minute Hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La Minute Hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Aujourd'hui, dans la Minute Hawaïenne, il faut rendre à Girac ce qui est à Girac. Ah, en sérieux. Hier, je suis peut-être allé un petit peu fort. Et en fait, je culpabilise parce que j'ai lu une phrase sur lui de Pierre-Alexandre Vertadier. C'est le producteur de ce concert qui dit « Les artistes qui réussissent sont ceux qui travaillent. » Kenji a en plus une singularité, un talent fou, quelque chose de naturel qui suscite de l'empathie. Il est authentique et les gens le sentent. C'est pour ça qu'il est l'un des plus gros vendeurs de billets, de concerts et d'albums en France. Ouais, c'est vrai que c'est pas tout faux. Non, mais je tape dessus, mais en fin de compte, le personnage, je l'aime bien. C'est pas Shakira quand même, tu vois ce que je veux dire? Tu vois qu'il a l'air sympa, le mec. Bon, ben, j'ai gratté un petit peu et j'ai réussi à trouver une chanson de Kenji Girac que j'aime bien. Et là, tu me diras, oh, t'es un salaud, parce que c'est la seule chanson où il chante pas, c'est vrai. C'est un solo de guitare. Mais Amor y Libertad. Amour et liberté. C'est un titre qui touche ma sensibilité de punk révolutionnaire. Donc c'est la chanson qu'on va écouter aujourd'hui. Prenez-la comme un petit moment de détente, comme un voyage dans le sud de l'Espagne, là où l'amour et la liberté sont rois. C'était « Il faut rendre à Girac ce qui est à Girac », c'est vrai, au bout d'un moment tu peux pas...
La Minute hawaïenne
sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La minute hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Radio Chablais, programme de nuit.
Le bon plan de Cyril vous est offert par Bliblablo de Net Plus et ses services internet, mobile et TV. Bliblablo, le multimédia d'ici.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril
sur Radio Chablais.
Le Mont Hélens Center légendaire pour son dynamisme toujours est avec nous. Bonjour Sabine.
Bonjour.
Sabine avec nous pour parler justement du spectacle de ce samedi. Deux spectacles, 14h30 et 20h. Le spectacle de l'école justement du Mountain Dance Center, Dance for the World. Fais-nous rêver, explique-nous, qu'est-ce qu'on va découvrir?
Ouh là là, alors il y aura beaucoup de chorégraphies avec les, donc, tous les élèves de l'école de danse, bien sûr.
Ben ouais.
Et il y aura quelques chorégraphies de la revue de Montreux avec la compagnie MDC, pour donner un petit peu de piment également. Et puis quelques guests, ben Cooper et Voldo.
Ah, joli. Ah, la tradition familiale.
Voilà. Ensuite, il y aura Faustine Jenny, qui est une superbe chanteuse. Et puis une danseuse de Zurich, qui est deux fois championne du monde et six fois vice-championne du monde de showdance, qui nous vient pour faire un joli solo. Et voilà.
Ouais, donc toute une ambiance, on rappelle, hein, pour fêter, c'est le spectacle de l'école du Mountain Dance Center, Dance for the World. On imagine aussi que justement cette thématique de danser pour le monde, elle sera présente un petit peu dans les différentes interventions, danser, jouer, chanter.
Oui, il y aura de tout, beaucoup de danse classique, du jazz, du moderne. Du hip-hop, un peu tous les styles, et c'est vrai que de tous les âges aussi, donc c'est chouette, mais c'est pas trop long, ça va bien, parce que des fois les spectacles d'école c'est un peu ennuyant, et là c'est vraiment chouette parce qu'il y a beaucoup de dynamisme justement, avec des plus âgés, des plus jeunes, il y a un petit peu de tout.
Un joli rythme pour justement ce spectacle de l'école du Mountain Dance Center, Dance for the World. C'est ce samedi au Crocheton à 14h30 et à 20h, on le rappelle. Par contre, c'est bien de réserver avant, non?
Oui, alors à 20h, c'est presque complet. Il reste encore quelques places pour 14h30, par contre. Les billets peuvent se prendre à l'école de danse de 14h30 à 19h, mercredi, jeudi, vendredi. Après, ouais. Ce sera fermé. Et après, ça sera sur place, au Crocheton, à la billetterie, une heure avant le spectacle.
Voilà. On rappelle donc que le spectacle, c'est ce samedi, 14h30 et 20h. 20h, c'est déjà quasiment complet. Il faut se dépêcher de réserver. Merci Sabine, et puis plein succès.
Merci beaucoup à toi et puis bonne journée à tout le monde.
À très bientôt, bye bye, ciao.
Merci, au revoir.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais. Bonne nuit sur Radio Chablais.
Le Mag, c'est ta région, son actualité, mais aussi son histoire du lundi au vendredi, après le journal de 17h. Et on commence aujourd'hui par de l'histoire et de l'actualité en même temps. Puisque l'Université de Lausanne va lancer une étude sur la commune de Corbérier cet été, qui concernera un bloc de roche situé au lieu dit du plan Falcon. Un endroit bien connu de la commune, puisqu'en 1584, un éboulement majeur s'y est produit. Éboulement qui avait ôté la vie à une centaine de personnes entre Corbérier et Yvorne. Aujourd'hui, aucun risque similaire, mais simplement une curiosité scientifique qui pousse l'UNIL à se questionner sur la présence et la forme de ce bloc. Pour en apprendre un peu plus, Ludovic Turin est allé questionner le municipal de Corbérier, Christian Roubati, en charge des terrains et des pâturages. Il a commencé par situer le lieu de l'étude qui va bientôt démarrer.
On parle des hauts en dessus de Corbérier, en dessus même du hameau de Luon, plus précisément vers l'alpage de Plofalcon. Et on voit vraiment là-bas la paroi rocheuse où il s'était passé autrefois un grave éboulement.
On va y revenir sur ce grave éboulement de 1584 pour être précis, mais peut-être avant ça, nous expliquer comment est venue l'idée de cette étude. Christian Roubati, vous avez été démarché par l'Université de Lausanne, comment ça s'est passé?
Alors ça s'est passé lors d'une discussion suite à une conférence. L'Université de Lausanne a fait tout un travail sur cet éboulement de l'Ovaille et ils sont venus présenter leur travail à Corbérier en demandant si ça nous intéressait. Il y a eu un très grand intérêt parce que la salle communale était complètement bondée, était pleine. Il y a eu beaucoup de questions et autres. Et à la suite de cette séance, j'ai parlé de certains glissements de terrain que j'ai constatés ces dernières années, mais des glissements très superficiels. Suite à ça, Ils se sont dit, tiens, ça serait peut-être intéressant de poursuivre des études. Finalement, on a étudié que la partie historique, mais ça serait peut-être intéressant de vérifier de manière géologique, sismique, comment évolue cette région.
Alors la partie historique, vous l'avez rapidement mentionné, Christian Roubati, c'est cet éboulement qui est bien connu en tout cas des gens d'ici d'Ivorne, de Corberier, c'est cet éboulement dit de Lovaille qui s'est produit en 1584, donc un petit peu moins de 500 ans aujourd'hui, qui a eu quand même beaucoup de répercussions, il y a eu des décès, il y a eu beaucoup de casses. Rappelez-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en 1584.
Alors en 1584, le 1er mars, par rapport à notre calendrier, ou le 11 mars à l'époque, le calendrier grégorien, il y a eu en fin de matinée un premier tremblement de terre. Après, il y a eu plusieurs répliques, dont une le 4 mars. En plus des tremblements de terre, il y a eu une période de très grosses précipitations. Donc tout le terrain était gorgé d'eau et il y a eu ces au moins quatre répliques de tremblements. Et le 4 mars, un grand bout de la paroi de la montagne est parti avec énormément de masses de boue, de terre et de matériaux qui ont enseveli une partie de Corberier et surtout une grosse partie d'Ivorne.
On peut encore le voir, hein, ce cône de déjection de gravats qui arrive de la montagne et qui est lié directement à cet épisode de 1584. C'est quoi le lien aujourd'hui, Christian Roubati, entre cet épisode et l'étude qui est actuellement mise en place par l'Université de Lausanne?
Alors le lien, c'est justement d'étudier un peu l'évolution de cette zone qu'on appelle l'Ovaille. Donc Ovaille viendrait, semble-t-il, d'un ancien mot patois, Orvaille, qui signifierait soit catastrophe, soit éboulement. C'est un peu maintenant de suivre quelle est l'évolution d'un terrain qui a connu une catastrophe ancienne, voir comment il réagit aujourd'hui. Donc c'est vraiment l'UNI qui a décidé d'étudier ce point. Il n'y a pas du tout actuellement de risque et de danger. C'est par curiosité intellectuelle et puis pour mieux connaître l'évolution d'un tel site.
Mais vous le dites, hein, en 1584 déjà, il y avait eu une météo capricieuse. Cette année, cet hiver, on a aussi connu un hiver, en tout cas, avec de fortes précipitations. On a vu beaucoup d'éboulements, on a vu beaucoup d'inondations aussi. Les nappes phréatiques sont remplies. Ça joue aussi avec cet hiver particulier de lancer cette étude?
Non, parce que ça avait été décidé, la séance avait eu lieu avant. Alors il est bien clair que des hivers difficiles comme cet hiver sont propices à plus d'éboulements et comme ça, mais vraiment l'étude n'est pas liée à un danger, à une crainte. Les habitants de Corberier et d'Ivorne peuvent dormir tranquillement. C'est vraiment un intérêt scientifique de connaître l'évolution de cette zone.
Et puis, évidemment, vous n'êtes pas dans l'étude scientifique, Christian Roubati, mais en quelques mots, si vous le savez, comment va se dérouler cette étude? C'est quoi les points d'ancrage précis qui vont être étudiés durant cette analyse?
Alors, le premier point qui va être installé cette année, c'est un sismographe qui va être installé sur la zone de Plan-Falcon, l'endroit un peu où s'est déclenché l'éboulement, pour mesurer tous les mouvements de terrain, ces informations que cherche l'Université de Lausanne pour voir comment évolue ce genre de terrain.
On l'a dit, vous êtes municipal ici à Corberier. Il y a un lien avec l'exécutif communal, Christian Roubati, avec cette étude. Comment vous collaborez avec l'Université de Lausanne? Est-ce qu'il y a déjà une collaboration ou est-ce que l'Université de Lausanne est assez indépendante?
Alors, l'Université de Lausanne est totalement indépendante. C'est uniquement ce contact que nous avons eu lors de cette séance qui a intéressé la population. Et suite aux discussions, ils ont décidé de mener cette étude. Nous, on est là que comme facilitateur pour les accès, pour différentes choses, mais on n'est autrement pas directement impliqué dans l'étude.
Et puis, tout dernier mot, Christian Roubati, peut-être un mot sur le temps que ça va prendre, cette étude. Est-ce qu'il y a déjà une prévision ou est-ce que, pour l'instant, pas d'informations à ce sujet?
Alors, pour le moment, je n'ai pas reçu de planning. J'ai reçu uniquement des informations par rapport à des demandes d'accès vers l'alpage pour aller installer le sismographe. Mais je ne dispose pas plus d'infos, savoir si l'étude va dérouler sur plusieurs années ou si c'est en termes de mois ou d'années, ça j'ignore.
Mais on se réjouit quand même de voir les résultats. C'est quelque chose qui intéresse les gens, c'est quelque chose qui passionne aussi.
Oui, c'est quelque chose qui ici passionne assez les gens parce que cette grande catastrophe de l'époque, même si c'est très ancien, est restée gravée dans le paysage ici et à quelque part dans l'inconscient collectif. Ça fait partie du territoire, si on veut, et de nos communes.
Et notez que vous pouvez réentendre cet entretien en replay sur notre site internet radiochablais.ch.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
On continue ce mag avec de la verdure et du printemps, puisque cosmologiquement, c'est plus l'hiver, même si la théo essaye de nous faire croire le contraire. Si tu es amoureux ou amoureuse de plantes et de nature, on te donne rendez-vous ce week-end à l'abbaye de Sala à Olon pour les bucoliques. Depuis 2014, le dernier week-end d'avril est en effet synonyme de début de saison des plantes dans les jardins de l'abbaye. Et c'est entre conférences et ateliers que les visiteurs auront de quoi échanger dans un esprit convivial. Voilà, le décor est planté. Jeu de mots. Et pour en avoir le cœur net, Xavier Borgeot est parti ce matin à la rencontre de la fondatrice des bucoliques, Martine Cardozo.
La volonté de départ, c'était d'organiser dans notre région un événement qui rassemble un petit peu plein d'artisans, pépiniéristes, producteurs de plantes qu'on voit pas forcément parce qu'ils sont disséminés dans toute la Suisse romande. Ils ont des petits domaines et puis ils sont pas forcément au bord d'une grande route passante. Et puis, c'est des gens qui sont tous passionnés par leur métier. Ils sont tous spécialisés, chacun dans leur domaine. Et voilà, l'idée, c'était d'amener le public vers ces gens.
Et d'ouvrir le dialogue, bien évidemment, sur le monde des plantes et des jardins. Et ça, c'était, et c'est toujours la volonté de base des bucoliques.
Oui, alors effectivement, c'est un plus. C'est de, par cette manifestation, de pouvoir amener des conférences, des ateliers, amener une sensibilité sur une façon de cultiver son jardin.
Et comme chaque année, il y a un thème. Et cette année, c'est l'eau. Ça tombe bien, on en a eu pas mal ces jours. Mais on va pouvoir s'interroger, se questionner sur cette thématique-là.
Oui, exactement, c'est l'eau. Effectivement, j'ai pensé à ça parce qu'on a eu deux années quand même très sèches, chaudes et très sèches en Suisse. Donc je me suis dit, ce serait pas mal de prendre l'eau comme thème. Depuis, il n'arrête pas de pleuvoir. Ça, c'était pas prévu, mais bon, voilà. C'est un petit peu, on voit un peu les déséquilibres auxquels on risque d'être soumis dorénavant. Et puis en plus, l'année dernière, j'ai eu connaissance d'un peuple premier d'Amérique latine, les Kogi, qui viennent de Colombie et qui sont venus en Suisse parce qu'ils avaient le désir de connaître le Rhône. Et puis je me suis dit, c'est quand même incroyable qu'un peuple qui vienne d'aussi loin ait envie de connaître un fleuve. Enfin, le Rhône, c'est un grand fleuve d'Europe, mais enfin quand même, quoi. Je me suis dit, comment, pourquoi? Et puis on aura la chance d'avoir deux des scientifiques qui ont accompagné cette délégation, qui viendront nous faire un témoignage en images de ce voyage au fil du Rhône avec les Kogi.
Pourquoi c'est important de partager ces philosophies par rapport à, alors, cette thématique de l'eau, mais surtout par rapport au monde végétal?
L'eau et le monde végétal, c'est tellement lié. Enfin, et nous, en Suisse, on est quand même très privilégiés. On a beaucoup d'eau, on a des glaciers, on a des montagnes, on a des fleuves et des rivières. Donc, on a de la végétation facilement. Mais on se rend compte qu'il suffit de quelques mois de sécheresse et tout peut être chamboulé. Donc, c'est vraiment, l'eau, c'est vital, quoi.
Donc il y a aussi une volonté peut-être de sensibilisation du public au travers de ces bucoliques.
Oui, il y a toujours une volonté de sensibilisation. Chaque année, il y a un thème différent. Donc cette année, c'est celui-là. Et puis pour revenir aux Kogi, donc à ce peuple premier, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un regard tout à fait différent du nôtre sur les éléments de la nature. Et je trouve que c'est toujours intéressant de partager ça, parce que ça peut nous aider, nous aussi, à changer de regard et éventuellement avoir des attitudes qui sont plus positives.
Est-ce que vous avez constaté aussi une évolution du public ou des publics qui viennent ici au Bucolique depuis 2014?
Oui, j'ai constaté un changement, c'est-à-dire au début, toutes ces thématiques, parce qu'on a eu on a eu la permaculture, on a eu la biodynamie, on a eu la géobiologie, c'était des choses un peu nouvelles, et puis ça faisait un petit peu rigoler. Et puis maintenant, c'est plus du tout le cas. En fait, maintenant, c'est des pratiques qui sont vraiment passées dans la vie courante. Tout le monde sait ce que c'est, tout le monde connaît, tout le monde a envie d'essayer, de faire mieux. Donc oui, je vois vraiment une différence.
On rappelle donc les bucoliques, c'est ici à l'abbaye de la Sala. C'est les 26, 27 et 28 avril. Donc on invite les gens à venir vous faire un petit coucou, tout simplement.
Oui, merci beaucoup. Et puis, vous avez toutes les informations sur le site aussi, internet, c'est www.lesbucoliques.ch. Vous pouvez venir aussi en transport public, enfin, tout est noté sur le site.
Il y a tout ce qu'il faut. Martine Cardozo, merci beaucoup. Et on rappelle donc que vous êtes la fondatrice des Bucoliques ici à l'abbaye de la Salle. Merci beaucoup et plein succès à vous.
Merci beaucoup, merci.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
On termine ce mag par un joli projet de culture qui cherche à mettre en avant son propre peuple à travers un événement qui aura lieu ce soir à la bibliothèque de Viollet. Deux Viollet-Roux vont en effet dévoiler leur premier ouvrage lors d'une soirée littéraire. Au programme, un roman en nous plongeant dans la classe ouvrière britannique et un recueil de témoignages sur le thème du suicide assisté. Julie Gay est allée à la rencontre de l'un des deux auteurs, Olivier Leclerc, pour parler de son premier roman intitulé I'm a Boy from Liverpool. Je crois qu'on dit Amascaus ou Ascaus du côté du Merseyside et avec accent. Il était accompagné de la responsable de la bibliothèque communale de Viollet, Marisol Mario. On l'écoute au micro de Julie Gay.
Pour la bibliothèque, c'était une évidence d'inviter ces deux auteurs qui sont locaux et de leur donner la parole à la bibliothèque. On a une institution culturelle, on trouve évidemment les livres à la bibliothèque, et d'avoir des auteurs et de pouvoir partager en fait leur aventure sur ce chemin de l'écriture, je trouvais très intéressant pour nos lecteurs.
Alors, une rencontre avec deux auteurs, Émilie Amé-Cornu, on en parlera en fin d'interview avec vous, Marisol, et vous-même, Olivier Leclerc. Vous avez publié il y a un mois, sauf erreur, votre premier livre. Il s'intitule « I'm a boy from Liverpool ». Alors, avant de se plonger dans le livre, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'écriture de ce premier roman ?
C'est une idée qui trotte depuis plusieurs années, on va dire, avec toujours ce syndrome, je dirais c'est mon syndrome de la page 30. À chaque fois, m'arrivait de jeter bêtement les 30 premières pages en me disant « c'est pas bon, je vais pas y arriver ». Et un jour, ça a pris, je ne sais pas pourquoi, peut-être un petit peu plus de temps à disposition, ou tout d'un coup, des idées nouvelles. C'est aussi à force de lecture, je me suis dit « tiens, pourquoi pas essayer une fois de faire comme mes écrivains fétiches, d'essayer d'approfondir vraiment le projet ». Et donc, c'est comme ça que c'est venu.
Et le résultat est là, le livre devant nous. Qu'est-ce qu'il raconte, ce livre ?
C'est l'histoire d'un Montaisan, on va dire un trentenaire Montaisan qui n'a pas une vie extraordinaire, petit travail qui lui permet de vivre. Il vient de quitter le foyer, on va dire, de ses parents. Et il zone un petit peu en ville les week-ends, la semaine. Et tout d'un coup, il décide de partir en vacances, de se changer les idées. C'est pas trop un adepte des grandes vacances, mais il se met à rêver de sable fin, de météo clémente, on va dire, en ce mois d'octobre. Et il se prend l'idée de partir en vacances subitement, prendre un last minute, parce que bien sûr, il fait tout à la dernière minute.
Et puis, il va atterrir finalement à Liverpool ?
Oui, ça se passe pas comme il veut. Réservation de dernière minute qui ne se déroule pas comme prévu. Et je veux pas trop en dire plus, parce qu'après...
J'allais dire, il faut donner aux auditeurs l'envie de lire cette immersion de ce jeune Valaisan dans un endroit qui lui est inconnu. Comment vous avez procédé pour l'écriture ? Ça vient totalement de votre imaginaire ? Vous avez un lien particulier avec Liverpool ? Comment ça s'est passé ?
On va dire un lien particulier avec Liverpool ? Non, pas forcément, mais c'est vrai que ça fait partie des endroits que j'aime bien, en tout cas en Europe, notamment les îles britanniques, que ce soit les différents pays qui la composent. Mais non, ça m'est venu comme ça, de différents voyages, d'expériences. Après, ce qui lui arrive... À part, on va dire, les choses un petit peu trop glauques, mais autrement, toutes les visites et tout, oui, c'est des visites que j'ai faites, et c'est pour ça que j'en parle avec une précision moyenne, on va dire, quand même. Mais oui, c'est des endroits que j'ai déjà visités, ouais.
Alors, écrire un roman, a fortiori, quand c'est le premier, c'est un long chemin, ça vous a pris un an environ. Le processus de création, comment ça s'est passé ? Vous avez de gros défis, c'est quand même compliqué, écrire un roman.
Oui, alors c'est pas forcément super simple, parce qu'on se dit toujours qu'on écrit comme on a envie, mais non, ça se passe pas comme ça. Il faut dire que j'ai été quand même bien aidé par Joachim Turin de Murat, qui en est pas à son premier pour sa part. Il en a déjà fait quelques-uns dans la région, donc il m'a donné des petits coups de pouce. Il m'a donné quelques contacts aussi, et puis aussi j'avais aussi des feedbacks avec Marisol et la bibliothèque de Viollet, qui m'ont aussi bien écouté lorsque j'avais des doutes ou des questions, qui m'ont aussi bien rassuré.
Des conseils de l'entourage de la bibliothèque de Monsieur Turin. Pourtant, les écrivains et écrivaines, ils ont quand même leur propre manière d'écrire, leur plume un peu singulière. La vôtre, c'est laquelle, si vous pouvez décrire votre style d'écriture ?
Ça fait déjà drôle de parler de style d'écriture, mais alors c'est plus dans l'action, on va dire, où c'est vraiment l'instant présent. Tout se passe au présent, donc c'est vraiment, on est en immersion avec la personne. En fait, il raconte ce qu'il voit à l'instant présent, donc il n'y a pas de passé ni de futur. C'est vraiment, on va dire, un peu comme dans une série Netflix, de ces caméras embarquées. On est un petit peu dans ce style-là.
Ça, c'est à titre personnel, on va dire. Je regarde beaucoup les titres de livres. Est-ce que ça a été une évidence pour vous dès le début ou il vient par après, en écrivant les dernières lignes du bouquin, I'm a boy from Liverpool, le titre en quelques mois?
Comme je vous l'ai dit, c'est l'histoire de ce personnage qui va un petit peu à contre-cœur dans cet endroit-là. C'est pas là-bas qu'il s'imaginait passer ses vacances. En allant à contre-cœur, au fil de l'histoire, il se rend compte qu'au final, bah oui, tiens... ça va devenir un enfant de la région et qu'il va peut-être trouver son, entre guillemets, son endroit sûr, son endroit à lui, qui va tout simplement devenir, bah, comme le dit le titre, un enfant du coin, quoi.
I'm a boy from Liverpool, c'est un livre à découvrir ce soir en soirée littéraire à la bibliothèque de Viona. Marisol Mario, une autre autrice sera présente ce soir. Est-ce que vous pouvez nous dire dans les grandes lignes qui est-elle et qu'est-ce qu'elle présente?
Nous aurons aussi Émilie Amécornu qui a écrit Libre et léger comme des papillons. C'est un livre totalement différent parce que le livre d'Olivier est un roman, je qualifierais d'un roman social, et le livre d'Émilie est un témoignage. On retrouve en fait 12 témoignages qu'Émilie nous partage avec sa sensibilité, son ressenti, sa bienveillance, son humanité, mais surtout son pathos. Et c'est des témoignages par rapport à son activité qu'elle fait depuis 5 ans. Donc elle est accompagnatrice de personnes pour le suicide accompagné.
Émilie Amécornu et Olivier Leclerc, du coup, sont à découvrir ce soir et leur livre également. Comment la soirée, pour celles et ceux qui seraient intéressés à participer, comment elle sera articulée cette soirée?
La soirée se déroulera en interview croisée entre les deux auteurs. La modération se fera par ma collègue Thérèse. Et puis, à l'issue de la rencontre, il y aura bien sûr les questions des personnes présentes et puis les dédicaces et un verre de l'amitié.
À noter que cette soirée littéraire débutera à 19h30 ce soir à la bibliothèque communale de Viona. Entrée libre.
Radio Chablais, programme de nuit.
Va des rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Bon, aujourd'hui, on souffre un petit peu des aléas du direct. Notre invité n'est malheureusement pas arrivé ici. Je pense qu'il veut pas sortir parce qu'il fait trop froid et je le comprends parfaitement. Du coup, c'est moi qui suis sorti. Et là, je me trouve à Morgin à l'occasion du Tour du Chablais, 4e étape. La course des minis est déjà terminée. Et là, c'est gentiment la course des écoliers qui va commencer. Alors les enfants, vous êtes sur Radio Chablais, comment ça va?
Oui.
Il fait froid, hein?
Oui.
Du coup, on va courir plus vite pour avoir chaud? Et à part ça, vous êtes magnifiques, tous de la même couleur. On va faire un truc, c'est que quand vous revenez après, vous revenez vers moi pour me donner votre temps, ça marche?
Ok.
Ouais, un peu moins déjà. Courez, profitez, amusez-vous, et on vous retrouve à la sortie. Sinon, ici, bah, j'ai mon cher speaker ici à côté, Sébastien, Imesh. Dis donc, ils sont courageux ces petits.
Ils sont à fond. Et quand je vois le temps, la température, chapeau à eux parce que franchement ils sont super motivés.
Alors pour expliquer, il neige et pas qu'un peu, et il neige depuis 4h l'après-midi. Donc il neige depuis un moment, il fait monstre froid, toi qui as des gants, t'es gelé.
Oui, on est en direct là?
On est en direct.
Pardon, excusez, faut pas trop que je dise de bêtises alors.
Oui. Oh, t'es avec moi, tu peux.
Oui, alors effectivement, il neige. Quelqu'un me posait la question avant, c'est quand la dernière fois qu'il a neigé sur une étape du Tour du Chablais? Ça doit faire vraiment un... Je sais pas si c'est possible, si c'est déjà arrivé une fois en fait.
Arrête, t'es sérieux?
Ouais.
Donc on est en train de vivre une grande première potentiellement?
Voilà, mais comme j'ai dit avant, le soleil dans nos cœurs, il fait toujours beau autour du Chablais.
Ouais, et en plus on sait que c'est dans l'effort que la récompense est plus belle. On souhaite un heureux et vraiment une bonne course à tous ces bambins. Et après, ben, ce sera au tour des adultes. Là tout de suite, on va faire une petite pause et on va revenir juste après.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Va des rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, ben c'est tout de suite beaucoup plus clair.
On est toujours en direct de Morgin à l'occasion de la 4e étape du Tour du Chablais et il fait froid. Je suis avec Cyril. Cyril, tu es un coureur. Salut.
Salut.
Toi, tu t'habites pas ici. Tu es morginois?
Je suis à Trentoran, ouais.
Tu es à Trentoran, mais t'habites où en ce moment?
San Diego.
T'es venu exprès pour la course ou bien?
Pas tout à fait, mais presque, ouais.
Il fait quel temps à San Diego maintenant? Fais-nous rêver.
Ouais, il va faire 28, ce gros soleil.
Ah ouais?
Super quoi.
Toi t'es venu vraiment pour l'amour du sport et de la famille, j'imagine un petit peu aussi, t'as de la famille dans le coin?
Exactement ouais, moi j'ai grandi ici jusqu'à mes 20 ans ouais.
Et puis qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans cette course précisément aujourd'hui avec les pelus qui sont en train de tomber parce qu'il neige?
Moi j'avais fait cette course depuis 2002, quand j'avais 12 ans, puis après quasiment toutes les années jusqu'en 2012 je pense. Donc vu que j'étais dans le coin, puis que ça par pure chance, bah, je me suis dit, ok, pourquoi pas.
Un petit souvenir, en fait, de l'époque où tu étais plus jeune et puis où tu faisais cette course, t'en ratais pas une, en fait?
Oui, exactement. Puis j'ai beaucoup de membres de la famille qui sont là aujourd'hui. On est au moins 4 ou 5 à courir.
Arrête! Donc c'est un truc qui se fait en famille aussi?
Ouais, entre les cousins, la copine de mon frère, tout ça, quoi.
Et puis c'est quoi l'ambiance, justement, que pour les coureurs, en fait? C'est quoi, qu'est-ce que vous avez comme sensation de courir à la maison et puis de se faire plaisir comme ça?
Bon, ça fait un moment que j'ai pas couru à la maison, donc ça fait plaisir de revenir faire cette course. Sous la neige, en plus, j'aime bien la neige, donc c'est...
T'es servi ce soir?
Exactement, ouais. Non, mais je fais pas mal de courses à San Diego aussi, puis j'aime bien cette ambiance de courir avec du monde autour, et puis...
Et puis c'est quoi le truc? À chaque fois qu'il y a une course, c'est quand même la fête. On vient faire du sport, et puis on fait quand même la fête. C'est quoi ce délire?
Ouais, bah comme j'ai dit, il y a du monde, il y a la famille, on veut se donner un peu, mais on fait... Après, c'est aussi pour être avec des gens, et puis discuter... Voilà, et puis voilà, passer un bon temps après la fête, après la course aussi.
Bah c'est parfait. Cyril, je vais te laisser continuer à te chauffer parce que je veux pas que tu refroidisses avec la température qu'il fait. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous pour cette petite interview. Et puis sérieux, force à toi.
Merci beaucoup.
Allez, bonne course à tout le monde. Sérieux, ils sont courageux. Il neige de plus en plus, les amis. C'est quelque chose vraiment d'impressionnant. Et les gens, ils ont quand même le smile. Ils sont là vraiment volontairement. Tu vois qu'ils sont pas obligés. Et ben, moi, je salue cette prestation-là parce que rien que le fait de dire aujourd'hui, je sors de la maison, ça mérite une médaille. Ils en méritent tous au moins, et toutes au moins des dizaines. Des plus petits, parce que je rappelle qu'il y a eu des courses mini. Il y a eu des courses écoliers qui viennent de partir et ce sera bientôt le tour aux adultes. Bref, là, on a gentiment terminé cette deuxième partie et on va profiter de ces flocons qui nous tombent dessus et de ce moment unique de la neige autour du Chablais. À ce qui paraît, c'est la première fois.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
C'est chaud
sur le grill.
La drame, autrefois appelée la dramatique, propose une création 2024 à Aigle. Stéphane Gabiou, bonjour.
Bonjour.
Alors Stéphane Gabiou, déjà juste rappeler quand même, parce que moi j'adore l'histoire, que la drame, c'est une des plus vieilles sociétés aiglonnes.
On peut le dire, on a fêté nos 100 ans il y a 2 ans, donc c'est une vieille dame mais qui se porte bien. À 102 ans, je peux vous dire qu'elle se porte toujours très bien.
Alors justement, 102 ans d'existence, la drame qui propose une création qui s'appelle Homme... Expliquez-nous cette création.
Alors pour tout vous dire, on s'est intéressé aux femmes il y a une dizaine d'années, c'était un gros travail déjà, hein. Et 10 ans plus tard on s'est dit mais pourquoi pas s'intéresser une fois au masculin, et c'est ce qu'on vous propose effectivement dans ce spectacle qui est rempli de petits sketchs, de petites scénettes autour de voilà la figure de l'homme. Aujourd'hui en 2024, c'est parfois un peu compliqué d'être un homme parce qu'on peut plus être le gros macho sur son piédestal qui a tous les droits et notamment sur les femmes. Heureusement, la société a beaucoup évolué et donc on s'interroge un peu sur la place de l'homme aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est d'être un homme aujourd'hui en 2024? On le fait avec, je vous rassure, beaucoup d'humour, mais aussi pas mal de poésie.
Alors, justement, poésie et humour, pour amener un sujet qui est effectivement sensible, il y a un changement rapide de notre société dans tout, et justement, dans la position masculine, on doit, les hommes, retrouver aussi un peu notre place, exister dans tout ce qu'on a envie, parce qu'on aime aussi, nous, ce monde-là, si on le présente comme ça, c'est de cette manière-là, mais on doit exister.
C'est ça, exactement. Et donc, on a, sur scène, pendant ce spectacle, régulièrement des hommes qui viennent un peu, voilà, nous partager avec nous ce côté un peu genre, bon, et qui est-ce que je suis vraiment, et qui est-ce que j'ai le droit d'être en tant qu'homme? Est-ce que j'ai le droit encore de faire ça, d'être justement un petit peu macho, un peu avoir de la testostérone? Mais en même temps, je dois être très sensible, je dois être un très bon père, je dois être un bon amant, je dois être un bon mari, je dois être un bon grand-père aussi. On a aussi un sketch qui raconte cette relation entre un grand-père et sa petite-fille. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des comédiennes, donc ça veut dire qu'on a des personnages féminins qui apparaissent. Et là, c'est aussi un peu la même chose. C'est, dans le fond, les femmes, comment est-ce qu'elles se positionnent par rapport à nous, les hommes d'aujourd'hui, 2024? Comment est-ce qu'elles arrivent à tisser peut-être une nouvelle relation, une nouvelle manière d'être avec les hommes?
Alors comme c'est une création, on va justement parler de cette création, puisqu'on imagine que les dames ont donné leur point de vue dans cette création. On va le présenter d'ici quelques instants. Juste rappeler, ce spectacle, c'est en plus dans un caveau magnifique au cœur de la rue de Jérusalem à Aigle. On est dans un lieu, là aussi, chargé d'histoire et qui en impose quand même.
Oui, c'est assez magique comme lieu. C'est l'ancienne génération, dans le fond, de la drame qui avait trouvé ce lieu, qui l'a transformé pour en faire un lieu absolument magique, vous le dites, Cyril, dans lequel on adore accueillir notre public. Ça fait maintenant bientôt 50 ans que ce lieu vit avec grâce au théâtre et grâce à ce qu'on peut proposer dans nos spectacles.
On rappelle donc cette création de la drame Homme avec un astérix, il faut le rappeler, ladrame.ch. C'est du 25 avril au 5 mai à 17h. Toutes les réservations ladrame.ch au 076 735 42 52. Ouverture des portes et du bar 30 minutes avant. On se retrouve d'ici quelques instants.
À tout à l'heure. C'est chaud.
Sur le grill.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
C'est chaud. Sur le grill.
Homme avec un astérix, c'est la nouvelle création de la drame pour cette saison 2024. Ça commence ce soir, jeudi à 20h, les samedis à 19h et les dimanches jusqu'au 5 mai à 17h, ouverture des portes et du bar, 30 minutes avant la représentation. On le disait il y a quelques instants, c'est au magnifique caveau de la dramatique à la rue de Jérusalem, à aigledadrame.ch pour toutes les infos. Stéphane Gabion, on continue justement à parler de ce spectacle Homme avec un astérix. Pourquoi cet astérix?
L'idée, c'est probablement de se dire qu'il n'y a pas qu'un type d'homme aujourd'hui et que derrière l'astérisque, on peut voir cette diversité du masculin aujourd'hui. On avait envie un peu de mettre ça en avant. Et puis, on s'est beaucoup amusé. Là, c'est surtout les filles de la troupe qui se sont amusées notamment à écrire un sketch qui s'appelle La Métamorphose, dans lequel elles imaginent ce que ce serait d'être un homme pendant 24 heures. Donc, elles se retrouvent dans un cabinet d'un thérapeute qui offre ça. Et donc, mesdames, pendant 24 heures, vous allez pouvoir vous retrouver dans la peau d'un mec, en fait, d'un homme. Et qu'est-ce que j'ai envie, moi, en tant que femme? Qu'est-ce que je souhaiterais être comme genre de mec si j'avais 24 heures à disposition?
C'est très sociologique comme spectacle. C'est hyper intéressant parce que, justement, les femmes ont pu enfin s'émanciper. Les femmes existent de plus en plus et de la plus belle des manières dorénavant. Mais maintenant, justement, l'homme, c'est le but de ce spectacle, doit trouver sa place au milieu de tout ça. Qu'est-ce qu'elles en pensent, les femmes de la troupe, et comment elles écrivent? Parce qu'elles ont toutes aussi des avis différents.
Moi, je pense qu'elles sont très sensibles au fait que aujourd'hui, les hommes, ils ont effectivement peut-être développé davantage de sensibilité, davantage de peut-être de modestie. On disait tout à l'heure, voilà, ils sont peut-être redescendus de leur piédestal. Et je pense que les femmes, j'ai l'impression qu'elles aiment ce nouvel homme aujourd'hui et qu'elles nous encouragent à aller dans cette voie. Mais en même temps, elles sont toujours tiraillées, titillées un peu par peut-être la force tranquille qu'on peut exprimer nous les hommes. Et elles recherchent aussi ça. Alors, est-ce que j'ai encore le droit aujourd'hui, en tant que femme, d'aimer des hommes qui sont un peu machos, un peu virils, etc. Donc, on a un sketch, par exemple, qui raconte ça, dans le fond, d'une femme qui dit, mais attends, moi, je sais que normalement, je suis plus censée aimer ce genre de caricature de l'homme, mais en même temps, je suis quand même un peu attirée. Donc, comment est-ce que je peux, aujourd'hui, en 2024, avancer avec tout ça?
C'est sociologique en même temps comme spectacle. Vous le traitez avec poésie, avec beaucoup d'humour, donc on va passer un très très bon moment. Et en même temps, forcément, on va réfléchir un petit peu à la position de lui ou d'elle, de notre relation, ou même pas, même en tant que célibataire.
Exactement. En fait, le but, c'était là, effectivement, vous dites, Cyril, c'est sociologique, on a l'impression que c'est un peu intellectuel. Nous, on voulait pas ça. On voulait qu'on rigole beaucoup, qu'on soit touché aussi, qu'il y aura de l'émotion, il y aura de la poésie, mais qu'on ressorte avec, dans le fond, des réflexions. Qu'on partage un petit peu, qu'on brasse un petit peu toutes ces idées autour du masculin, du féminin aujourd'hui, mais effectivement plutôt dans une bonne humeur.
Dans de la bonne humeur, en passant un très très bon moment, et c'est le meilleur moyen de peut-être se lâcher et d'échanger. On rappelle, Homme avec un astérix, c'est la création de la drame pour cette saison 2024. Ça commence ce soir, jeudi, c'est à 20h tous les jeudis et vendredis, les samedis à 19h et les dimanches à 17h jusqu'au 5 mai. Ouverture des portes et du bar 30 minutes avant la représentation dans le magnifique, on le répète, caveau de la dramatique à la rue de Jérusalem à Aigle, ladrame.ch ou le 076 735 42 52. Plein succès à vous, Stéphane Gabion, merci.
On prend, c'est très gentil. Merci, Cyril.
Sur le grill.
Radio Chablais, programme de nuit.
Radio Chablais,
le nombril du monde. Bienvenue chez nous. C'est plus grand que ce que je croyais.
Le nombril du monde, c'est toujours Colombet. On sort du monastère des Bernardines, on profite de cette quiétude, il y a les oiseaux qui piaillent, il fait bon, il fait frais, il a failli neiger ce matin, mon très cher guide Emmanuel.
Effectivement, la météo n'est pas à la hauteur de nos espérances, je dirais, ce matin.
Il y avait de la neige mélangée à de la pluie ce matin chez vous quand je suis arrivé, et on est le 18 avril, tout va bien. Bon, on va donner envie aux gens de venir au Nombril du Monde ici à Colombey. Qu'est-ce qu'on a comme activité ou comme événement à ne pas manquer?
Alors, je dirais qu'il y a toujours les activités sportives. Si quelqu'un veut s'établir dans la commune, je pense qu'il y a toujours un club sportif qui est à sa dimension, à ses attentes. À part ça, il y a toujours des clubs culturels, enfin des sociétés culturelles, les fanfares, les chorales. Chorales qui ont des niveaux assez intéressants. Et puis, à part ça, il y a une commission culturelle de Colombey-Murat qui fait toujours une série d'événements sur la commune chaque année, très éclectique, c'est très intéressant, de beaux événements. Alors, je pense qu'il y a de quoi faire déjà à Colombey-Murat.
Donc là, on peut aller regarder colombeymurat.ch.
Oui, et puis sur le site de la commune, il y a tous les événements qui sont écrits normalement.
Et c'est vrai que la commission culturelle ici, elle bosse pas mal, hein.
Ah, je trouve qu'elle fait un joli travail, effectivement. Vraiment des choses très éclectiques dans tous les domaines, cinéma, concerts, spectacle comique, etc. Donc bravo à l'équipe, là.
Et puis la fête au village, c'est quand ici?
La fête au village, normalement, c'est vers la fin août. Je n'ai pas la date précise en tête, j'ai un petit peu honte, mais allez sur Internet, vous trouverez. Mais là, c'est lieu de rendez-vous des vieux colombérous et des gens qui apprécient le vin, puisque chaque fois qu'il y a la fête au village, il y a Viti Colombet avec une quinzaine d'encaveurs, tous plus intéressants que les uns que les autres. Peut-être que les derniers, on arrive moins à se rendre compte de la qualité du vin, vu les dégustations précédentes.
Et puis sinon, il y a aussi de quoi se balader par ici, parce que le bois des Fauges...
Alors, le bois de Fauds, je dirais plutôt, moi...
En patois, oui.
En langage de Colombey, le Fauds. Alors oui, il y a tous les chemins en dessus du village de Colombey, sur la route du sentier des blocs erratiques, qui est intéressant. Et c'est toujours intéressant de voir les murs soutenants sur ces chemins, qui nous rappellent justement que les chariots arrivaient dans ces forêts. Puis maintenant, on peut monter en altitude, on a des Mayens, on a également la pointe de Bellevue, et puis des sentiers pédestres qui nous y mènent, et qui sont absolument splendides. Et si vous aimez la montagne, il y a le sentier qui fait l'arrêt de Préfleury. Vous partez du restaurant de Chalet-Neuf. Vous avez une boucle qui dure à peu près 2h30 et qui passe par l'arrêt de Préfleury, la Combe de Dreveneuse. Vous remontez ensuite sur la Croix de Bellevue. Vous redescendez sur le restaurant de Chalet-Neuf. C'est une petite balade qui est absolument superbe avec beaucoup de paysages différents sur 2 heures de marche. Splendide. Mais un petit peu aérien quand même suivant les endroits.
Va et découvre ton pays, c'est exactement ce qu'on vous propose tous les matins. Vous avez tout ce qu'il faut dans les mains.
Radio Chablais.
Le nombril du monde. Bonne nuit sur Radio Chablais.
La question improbable.
Pourquoi les pizzas rondes, on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangle?
Sur Radio Chablais.
Alors, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des manchots. Alors que tous les maladroits et maladroites se rassurent, je ne vais pas parler de vous dans cette chronique, ou très peu du moins. Ce sera principalement pour la deuxième heure. Aujourd'hui, en fait, c'est de l'animal dont on va parler. Alors, première des choses, ne pas confondre les pingouins avec les manchots. Déjà, ils ne sont pas de la même espèce. Et puis, les pingouins, ils ont des ailes et ils peuvent s'en servir, contrairement aux manchots qui ne volent pas, malgré le fait qu'ils ont des ailes. Et donc, même si cette journée en anglais s'appelle World Penguins Day, ben c'est bien des manchots dont on parle. Pourquoi ? Eh ben tout simplement parce que les manchots sont en voie de disparition. La banquise continue de fondre et ça fait énormément de dégâts sur l'écosystème. Alors pour faire court, il y a pas que ça. Il y a à cause du réchauffement climatique, à cause de la surpêche ou encore à cause de la pollution marine, il y a 11 espèces sur 18 qui sont menacées d'extinction au jour d'aujourd'hui. Et cette journée mondiale, eh ben du coup, elle sert à mettre en lumière toutes les nombreuses menaces qui pèsent sur les manchots et qui les obligent à s'éloigner de plus en plus des lieux de nidification pour aller chercher à manger. Et du coup, aujourd'hui, on met en lumière les différentes choses à mettre en place pour sauver les manchots de l'extinction. Alors, on va pas se mentir, c'est vrai que c'est un peu déprimant comme news de bon matin. Donc, revenons à ma question improbable initiale pour cette chronique. Pourquoi est-ce que les manchots sont maladroits ? Alors, de ce que j'ai pu comprendre de mes petites recherches, c'est parce que sur Terre, ils sont pas méga agiles. En fait, ils se dandinent en marchant, ils gardent les ailes ouvertes pour essayer de garder l'équilibre. Ils donnent vraiment l'impression d'une grosse maladresse. Alors, je sais pas si vous avez déjà regardé des vidéos de manchots qui marchent. J'avoue, c'est assez drôle. Mais je trouve qu'on dirait vraiment qu'ils titubent comme s'ils rentraient de soirée à marcher avec les bras écartés pour garder l'équilibre ou se protéger d'une chute éventuelle. Alors du coup, maintenant que j'y repense, je sais pas si je dois rire ou être vexée qu'on m'ait traité de manchotte durant toute mon adolescence. Mais si c'est votre cas, Eh bien, restez bien à l'écoute parce que dans la deuxième heure, on va déconstruire ensemble cette image de maladroit inconditionnel lié au manchot. Voilà, voilà.
La question improbable.
Pourquoi les pizzas rondes, on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangles ?
Sur Radio Chablais. Bonne nuit sur Radio Chablais.
La question...
Pardon ?
Tu dis quoi ?
Sur Radio Chablais.
Alors, dans la première partie d'émission, on a parlé des manchots et de pourquoi ils sont considérés comme maladroits. Alors, pour ceux et celles qui prennent le train en marche, c'est parce que les manchots ne sont pas très adroits sur Terre. Ils titubent en marchant et doivent garder leurs ailes ouvertes pour garder l'équilibre. Alors, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des manchots et j'ai décidé de déconstruire ce mythe parce que même si les manchots sont des oiseaux qui, sur Terre, ont l'air d'être dans un état d'ébriété constant, ils sont en revanche méga habiles dans l'eau. Alors déjà, ils sont capables d'atteindre des pointes de 30 km/h et puis ensuite, ils détiennent le record de la plongée la plus profonde, donc 564 mètres, et de celui de la plongée la plus longue, près de 28 minutes. Est-ce que vous en connaissez beaucoup des maladroits qui sont capables de telles prouesses ? Moi, qui suis maladroite de profession, si j'essaie de nager vite, il y a des chances que j'éborne ceux qui sont autour de moi, que je frappe du pied la mamie qui nageait derrière moi et que je finisse par me casser la tête sur le bord de la piscine. Enfin bref. Et le dernier truc, c'est que le papa manchot est capable de garder l'œuf ou le poussin dans un pli sur sa patte pendant plusieurs semaines s'il n'a pas pu trouver de la place pour construire le nid ailleurs. Moi, je suis incapable de rester en place pendant plus de 5 minutes et je finirai probablement